VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel, midi à Kinshasa. Les 27 pays membres de l'Union européenne hors Royaume-Uni déclarent que leur priorité lors de leurs négociations avec Londres sera de rester unis et de minimiser les incertitudes nées du Brexit pour les citoyens, les entreprises et les États. Dans leur réponse à la lettre de Theresa May officialisant le divorce des Britanniques avec l'Union européenne, les 27 disent vouloir aborder les discussions de manière constructive afin de trouver un accord et espèrent que le Royaume-Uni restera un partenaire proche du bloc. Le texte que Reuters a pu consulter ne mentionne pas la possibilité d'un échec des négociations au bout des 2 ans prévus. Dans une version précédente, l'Union européenne se disait prête à une absence d'accord, même si elle ne le souhaitait pas. Sur le continent en Afrique, l'ONU a repoussé à jeudi ou vendredi son vote sur le renouvellement du mandat de sa mission de maintien de la paix à RDC, selon l'AFP, après la découverte des corps sans vie des experts Michael Sharp et Zaïda Catalan dans la province du Kasaï. Paul Nsapu, le président de la Ligue des électeurs et secrétaire général adjoint de la FIDH, plaide pour des sanctions après la vague de massacres dans la région.
Par rapport aux violations graves des droits humains qui sont commises, nous demandons, surtout dans les Kasaï et ailleurs aussi, nous demandons que des sanctions ciblées soient prises. Il y a par exemple ces autorités militaires et même civiles qui sont concernées par la question de sécurité au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau des services de sécurité.
Paul Nsapu, le président de la Ligue des électeurs et secrétaire général adjoint de la FIDH. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a lancé hier un dialogue national boycotté par le camp de son rival Jean Ping. Il a exhorté ses compatriotes à régler ce qu'il a appelé la querelle de famille. Quelques 50 partis politiques et 1200 organisations de la société civile étaient présents. Nikez Moulumbi, le président de l'ONG Croissance Saine et Développement, qui ne participe pas à ce conclave, explique son choix.
C'est pas à un dialogue avec plus de 1500 personnes ou 2000 personnes que nous trouverons. C'était peut-être une très bonne idée pour le chef de l'État, mais les personnes à qui il a désigné d'organiser ce dialogue ont décidé de tuer la poule dans l'œuf. Le quotidien du Gabonais va-t-il changer au lendemain de ce dialogue? Cherté de la vie, cherté d'eau et d'électricité, cherté des matières premières, cherté du transport. Est-ce que cela va changer? Est-ce qu'au lendemain du dialogue, les grèves vont s'arrêter définitivement? Dans le secteur de l'enseignement, le Gabon a trop fait de la politique. On pense un peu à cette jeunesse qui devient un danger potentiel pour tout le monde. La jeunesse devient un danger pour la cité.
Nikez Moulumbi, président de l'ONG Croissance Saine et Développement au Gabon. La cour d'assises d'Abidjan a acquitté l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale. Un coup de théâtre alors que le procureur avait requis l'emprisonnement à vie. Simone Gbagbo n'est pas coupable des chefs d'accusation qui lui étaient reprochés. Telle est la décision des 3 juges et des 6 jurés qui ont mené pendant près de 10 mois ce procès dont l'issue était très attendue. Écoutez la réaction de Ali Eo, procureur général du parquet, qui avait requis la prison à vie contre l'ex-première dame.
Le jury a estimé qu'elle ne devait pas être tenue coupable pour les faits de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Peut-être ont-ils voulu aussi donner un signal fort aux politiques pour la réconciliation. En tout cas, le procès s'est tenu, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'émotion qui a parlé.
L'émotion qui a parlé, Dixit Aliyo, procureur général du parquet en Côte d'Ivoire. L'Afrique a besoin d'être plus innovante, plus productive et plus compétitive pour réussir l'émergence de son économie, a affirmé mardi à Abidjan le président guinéen Alpha Condé à l'ouverture d'une conférence internationale. De son côté, le président ivoirien Alassane Ouattara a affirmé en présence de ses homologues du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, et du Sénégalais Macky Sall, que cette rencontre devrait être une opportunité pour répertorier un certain nombre d'obstacles à lever afin d'accélérer la marche des pays africains vers l'émergence. La capitale économique ivoirienne abrite une conférence internationale sur l'émergence économique en Afrique prévue pour durer 3 jours.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au moins 269 personnes sont décédées au cours des 5 derniers mois lors d'une nouvelle épidémie de méningite qui frappe plusieurs États du Nigeria, ont annoncé aujourd'hui des responsables du secteur de la santé. Pour le moment, nous avons recensé 1828 cas et enregistré 269 décès dans une quinzaine d'États, a annoncé le Centre national de surveillance des maladies. Au moins 5 États du nord du pays, Sokoto, Zamfara, Katsina, Kebbi, Niger et le territoire fédéral de la capitale Abuja, sont les plus sévèrement touchés par cette maladie mortelle et ont atteint le seuil épidémique, a ajouté le Centre national de surveillance des maladies. La sécheresse qui sévit dans la Corne de l'Afrique affecte sévèrement la République autoproclamée du Somaliland, dont de nombreux habitants sont victimes de la famine. Des travailleurs humanitaires tentent de leur venir en aide. Le reportage sur place de notre collègue Abdelaziz Osman du service Somali. Récit Lionel Gaïma.
Le vieil hôpital des Rivago, le seul de la région de Sanaag, dans le Somaliland, est débordé par l'afflux de nombreuses victimes de la sécheresse. Des enfants affectés par la malnutrition sont accueillis dans le centre de stabilisation. Ismaël Saleban Bokwa en est le directeur. La sécheresse a contraint de nombreux éleveurs à se déplacer. Certains sont allés dans les villes, mais la plupart des enfants mal nourris admis ici sont originaires des zones rurales. Avdaru Salas, petit garçon de 14 mois, pesait environ 6 kilos lorsqu'il est arrivé du camp des déplacés de Darar. Il souffre de diarrhée et de malnutrition, explique sa mère, dont la détresse est visible. La condition de Salah s'améliore et il pèse maintenant 7,2 kg, assure le docteur Abdishakour Saleban Warsam, un des médecins. Il était très faible à son arrivée ici, avec un poids et une taille en dessous de la normale. Sévèrement malnourri, il a été placé dans le centre de stabilisation. Il ne pouvait pas manger, alors on a commencé à l'alimenter à l'aide d'une sonde, qui est toujours en place. Certaines familles dans les zones affectées par la sécheresse rencontrent des difficultés à amener leurs enfants au centre de santé. Le docteur Ismaël Saleban Bokwa, directeur de l'hôpital d'Erivago. Dans les zones rurales, les familles ayant des enfants mal nourris ne sont pas en mesure de les amener à l'hôpital. Par exemple, si une mère de 10 enfants en a 5 souffrant de malnutrition, nous la prions d'amener ses enfants malades à l'hôpital. Selon les Nations Unies, plus de 6 millions de personnes à travers la Somalie et le Somaliland ont besoin d'une aide d'urgence à cause d'une longue sécheresse qui ne donne aucun signe de s'atténuer.
Le président sud-africain Jacob Zuma devrait être aujourd'hui le grand absent des funérailles du héros de la lutte anti-apartheid Ahmed Kathrada, décédé mardi à 87 ans, auxquelles doivent participer la quasi-totalité des responsables politiques du pays. Compagnon de cellule de Nelson Mandela et figure historique de son Congrès national africain, l'ANC, M. Kathrada avait publiquement demandé l'an dernier la démission de l'actuel chef de l'État, englué dans une litanie de scandales de corruption. Très discret depuis sa retraite politique en 1999, Ahmed Kathrada était exceptionnellement sorti l'an dernier de sa réserve pour déplorer le chemin pris par l'ANC sous le règne de M. Zuma.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'ex-premier ministre français Manuel Valls, finaliste malheureux de la primaire socialiste, votera pour le candidat centriste Emmanuel Macron dès le premier tour à l'élection présidentielle, a-t-il annoncé aujourd'hui. Monsieur Valls, premier ministre de 2014 à 2016 du président François Hollande, tourne donc le dos à son propre camp représenté par Benoît Hamon, vainqueur de la primaire de gauche. Emmanuel Macron ressort dans les sondages récents en tête des intentions de vote autour de 25%, proche, voire parfois légèrement, devant la candidate du Front National, Marine Le Pen. Au moins 5 personnes ont été tuées aujourd'hui dans une explosion d'une bombe dans un bus à Homs, une ville du centre de la Syrie, a rapporté un média officiel. L'explosion qui a fait également 6 blessés s'est produite dans un petit bus dans le quartier Al-Zara, touché régulièrement par des attaques à la bombe, dont la dernière avait tué 4 personnes en décembre. Et puis des combats rapprochés opposés. Aujourd'hui, les forces spéciales et la police irakienne aux djihadistes de l'organisation État islamique dans le secteur de la mosquée Al-Nouri. Dans Mossoul Ouest, des fusillades nourries ont retenti dans la vieille ville où des djihadistes sont dissimulés parmi les civils. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.